19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. Mathieu Bocoté a dîné. Je l'ai surpris au restaurant avec une jeune demoiselle.
Oula.
En tête à tête.
Non.
J'ai quitté le restaurant, il y était encore.
Non.
J'ai appelé le patron du restaurant pour en savoir plus. À quelle heure il a quitté le restaurant?
Et alors?
Je vous dirai ça après les infos de Simon Guilain. Bonsoir Simon, comment allez-vous?
Bonsoir, très en forme, cher Christine, comme tous les soirs sur ce plateau. Et bonsoir à tous, chers téléspectateurs. L'actualité est dramatique. Deux fillettes de 6 et 11 ans ont été blessées lors d'une attaque au couteau à proximité de leur école dans le Bas-Rhin. Elles ont été hospitalisées en urgence pédiatrique. L'assaillant a lui été interpellé par les forces de l'ordre. Selon la gendarmerie, l'homme n'est pas connu des services de police et ses motivations ne semblent pas être en lien avec une radicalisation. La nouvelle conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine, interdite par la préfecture du Nord, elle devait se tenir ce soir dans une salle de Lille avec la militante franco-palestinienne Rima Hassan. Hier déjà, l'université de Lille avait interdit cette conférence. Et puis le leader français des médicaments génériques Biogaran, est à vendre. Cette filiale du groupe Servier détient 900 médicaments et un tiers du marché français. Le ministre délégué chargé de l'industrie a affirmé que l'État était très vigilant sur cette possible vente. Parmi les quatre candidats en lice figurent deux industriels indiens, chère Christine.
Merci beaucoup Simon Guilain. Jolie cravate, merci à votre maman, bon choix de cravate. Au sommaire ce soir, les deux jeunes soupçonnés d'avoir tué à la hache et à la batte de baseball Philippe, 23 ans, à Grande-Synthe, n'ont que 14 et 15 ans. La violence des mineurs n'est pas nouvelle, mais elle prend une forme inédite aujourd'hui. Mathieu Bocoté nous éclairera comme nulle part ailleurs. Avec son expérience en tant que sociologue, la jeunesse a une prédisposition à la violence, mais aujourd'hui, pourquoi explose-t-elle? En quoi est-ce le point d'aboutissement de la société construite depuis 60 ans? En quoi est-ce le croisement des dimensions migratoires et générationnelles? L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que Gabriel Attal a prononcé un discours choc pour ses 100 jours à Matignon sur le retour de l'autorité et sur la violence des mineurs, on se demandera à quoi servira ce Grenelle sur la violence des mineurs. Si le Premier ministre a eu un constat clair, clinique, sans faux semblant, pas de Kevin et Matteo, pas de sentiment d'insécurité, mais un discours clair et courageux face à la réalité que vivent beaucoup de Français, Guillaume Bigot reste perplexe et pessimiste. Selon lui, ces Grenelles cherchent à cacher le fait de ceux qui ne veulent pas agir au lieu de s'attaquer directement à la racine du mal. L'analyse de Guillaume Bigot. Quelques fleurs, une marche blanche prévue demain, Grande-Synthe est déchirée entre la réalité du quotidien et le discours politique sur place. Tous les regards se tournent vers la ville, cette ville de 21 000 âmes qui a vu Philippe, 23 ans, succomber à des coups de hache. Cette commune qui a voté Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, cette commune avec 62% de logements sociaux. Quelle est cette commune victime de nombreux faits de violence, mais que le maire PS voudrait minimiser? Le regard de Marc Menon. Nous analyserons le diagnostic de Gabriel Attal sur la violence des mineurs, les parents des missionnaires, oui, mais pourquoi? Les écrans qui enrôlent les mineurs, oui, mais pourquoi? La drogue qui fait de notre jeunesse de la chair à canon, déclare le Premier ministre, oui, mais pourquoi? L'entrisme idéologique, oui, mais pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Derrière le constat décrit aujourd'hui, tout ce qui n'est pas dit, avec le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis le gouvernement a décidé un couvre-feu à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pendant 2 mois. Pas question que les jeunes de 12, 13, 14 ans soient dehors en pleine nuit avec des armes, a déclaré Gérald Darmanin. Là aussi, problème avec les mineurs, problème avec l'insécurité. L'insécurité, première préoccupation des Guadeloupéens. Mais comme il ne faut pas le dire, on retrouve des votes RN puissants en Outre-mer. Comment expliquer la différence de vision entre les Outre-mer et l'Hexagone concernant le RN? Un vote considéré comme raciste en Hexagone. Comment expliquer l'accueil chaleureux à Saint-Denis de la Réunion de Marine Le Pen avant-hier? L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. C'est ainsi que Mathieu Bocoté a passé sa nuit au restaurant.
Non, puisque je dois me justifier, c'est une amie québécoise de passage à Paris. Nous nous sommes connus il y a 25 ans dans les rangs du Parti québécois, le parti indépendantiste qui veut faire du Québec un pays indépendant, un pays libre. Elle était de passage à Paris et nous avons parlé d'indépendance du Québec pendant tout le dîner.
Vous êtes sûr?
Moi, je le jure, croyez-moi.
Je vais appeler le restaurant.
Nous conspirions pour l'avenir de notre nation.
La politique
donc vous conspirez en France contre le Québec?
Non, pour le Québec, pour le Canada. Non, j'ai pas tout.
Bon, en tout cas, je vous ai vu.
Non, mais j'espère bien. On a salué Léa, d'ailleurs.
Oui, avec ma fille, exactement. Elle m'a dit, mais il est là, Mathieu Bock-Côté. Je lui ai dit, bah oui, je vais pas aller lui faire un bisou. Je lui ai dit, non, il est avec une fille, tu vas le déranger. Alors, on va commencer par... je vais commencer par vous montrer, faire écouter un sonore d'Emmanuel Macron, assez surprenant. Écoutez, et on en discute dans un instant.
Je pense que c'est très important dans les moments que nous vivons que l'ensemble des voix puissent s'exprimer de manière libre et qu'après, chacun puisse combattre les arguments qui sont exprimés librement. Je ne partage pas la vision des choses, ni sur le conflit au Proche-Orient, ni sur beaucoup de choses de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer sa voix. Et c'est la même chose pour M. Zemmour. Et je pense que ça a toujours été la force de la République, c'est de nous battre pour que toutes les voix puissent s'exprimer, toujours dans un cadre respectueux, mais qu'elles puissent s'exprimer. Quand bien même nous combattons leurs idées, mais on le fait d'argument à argument.
On en parle dans un instant, on fera un tour de table. On verra également le tweet d'Éric Zemmour qui demande à ce que Jean-Luc Mélenchon puisse tenir effectivement ses conférences, même si c'est un adversaire politique, on en parle dans un instant. D'abord, les deux jeunes soupçonnés d'avoir massacré Philippe, 23 ans, j'en parlais en titre, n'ont que 14 et 15 ans. Ils ont piégé le jeune homme sur un site de rencontre, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Nous en parlerons avec Marc Menant dans un instant. Mais d'abord, Mathieu Bock-Côté, regardons les faits de ces derniers mois. Chemseddine, 2 mineurs en cause. Samara, 3 mineurs en cause. Zakaria, tué à Romans-sur-Isère, 1 mineur mis en examen. On peut continuer comme cela. La violence des mineurs sature l'actualité. Mais quels sont les mécanismes de cette violence et les raisons de notre aveuglement?
En fait, je crois que la violence des mineurs est le sujet que nous ne sommes pas capables de comprendre parce qu'il heurte l'ensemble de nos préconceptions sur la société, l'ensemble de nos visions de la société. Alors que, bon, il y a un fait de base, je dirais, quelle que soit la société, quelle que soit l'époque, quelle que soit la civilisation, il y aura toujours de la violence dans une société. Aucune société n'est à l'abri de la violence, parce que je dirais, comme diraient nos amis catholiques qui, de ce point de vue, ne se trompent pas, aucune société n'est à l'abri du péché originel, parce qu'il est dans le cœur de l'homme. Donc la tentation du mal habite le cœur de l'homme. Aucune société ne pourrait se purger du mal. Ensuite, toutes les sociétés, par le processus de civilisation, réussissent à atténuer la violence, à la métaboliser, à la transformer culturellement, à la transformer symboliquement et à la refouler dans les marges sociales. Et mieux encore, à faire en sorte qu'il y ait une seule violence autorisée, celle de l'État. Et ensuite, la violence est dans les marges et on vit dans une société pacifiée. Bon, ça, on pourrait dire que c'est toute société civilisée est dans cette direction. Mais la violence des mineurs, elle, est un scandale absolument absolu parce que nous sommes les héritiers d'une anthropologie, d'une philosophie rousseauiste. Rousseauiste, comme dans Jean-Jacques Rousseau, que cette conviction, mais ce n'est pas le seul, hein, c'est une philosophie qui est devenue dominante depuis les années 50 et 60, que l'enfant en lui-même est spontanément bon. L'enfant en lui-même ne porte pas de violence. L'enfant en lui-même est étranger à la bête. L'enfant en lui-même est un petit cœur pur, un ange en quelque sorte, et c'est seulement au contact du monde adulte qu'il pourrait se corrompre et découvrir la violence, découvrir la domination. Et cette lecture du rapport à l'enfant est à l'origine de bien des erreurs pédagogiques, sociologiques et politiques qui, des décennies plus tard, nous conduisent aux violences actuelles. Parce que, on a cette idée, si l'enfant est pur, si l'enfant porte en lui la spontanéité et toute la beauté du monde, si l'enfant n'a rien d'un petit diable de temps en temps, disons ça comme ça, eh bien, on va chercher à détacher l'enfant de l'emprise du monde adulte. On va le délivrer des différentes formes de socialisation, toujours trop autoritaires. On va le délivrer des différentes institutions, toujours trop verticales. On va le délivrer des différents cadres, toujours trop autoritaires, pour lui permettre d'être pleinement lui-même. En oubliant que lorsque l'enfant est pleinement lui-même, il est souvent tyrannique. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis 60 ans? C'est le grand programme de l'émancipation des 60 dernières années. disqualification de la relation d'autorité dans la famille. Il fallait détruire cette relation d'autorité parce qu'elle était aliénante pour les enfants. Disqualification de la relation maître-élève. Parce que le maître devait-il encore être le maître, hein, ça devait devenir un ami, une forme d'accompagnement qui accompagnait le jeune, qui était vu comme un apprenant, c'était plus un élève qui devait s'élever. Donc l'abolition du rapport pédagogique. La disqualification de la culture et de la transmission culturelle. Cette idée que vous devez hériter d'un patrimoine culturel pour vous civiliser et pour vous élever. L'idée aussi de la disqualification des inhibitions. La capacité d'être capable de contenir ses émotions, de contenir sa colère. La capacité aussi de ce qu'on pourrait appeler le principe de la gratification différée. C'est-à-dire, je veux quelque chose, mais je ne le prends pas immédiatement. Mon désir ne me conduit pas à l'action immédiatement. Je suis capable de le transformer pour en faire un projet à long terme. Je sais contenir mes émotions. Et cette survalorisation d'un enfant sous le signe de la spontanéité totale. Un enfant qu'on devrait libérer de toutes les normes adultes, ça conduit à des vrais délires. Il ne faut juste pas l'oublier. N'oublions pas, à la fin des années 70, dans un certain milieu, ce n'était pas toute la société, mais la célébration de la pédophilie, il y avait derrière ça cette idée qu'il fallait libérer l'enfant des inhibitions propres au monde adulte. Et la sexualité infantile était vue comme la plus émancipatrice et révolutionnaire qu'on pouvait imaginer. Ça, c'est quand même la folie, véritablement, de cette période. Donc, une révolution philosophique depuis 50 ou 60 ans qui nous a amené à détruire tout ce qui pouvait structurer l'enfant, qui pouvait lui permettre peu à peu de devenir un adulte. Donc, destruction de tout ça. Destruction des codes culturels, ou destruction de la famille. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Pourquoi? Vous parlez souvent, à l'extérieur de ce plateau d'ailleurs, du rôle des mamans solo, hein, des parents solo, des mamans solo. Et c'est fondamental ce que vous faites avec cette bataille-là. Pourquoi? Parce que c'est factuel. Quand on fait un peu de sociologie, on constate qu'une des causes à l'origine de la violence dans différentes communautés, c'est vrai chez les Afro-Américains, c'est vrai dans différentes communautés, c'est la disparition du père. La disparition du père, l'effondrement de la fonction paternelle, fait en sorte qu'il y a une libération de la violence, que le père... Aujourd'hui, c'est une fiction, c'est un truc qu'on en fait, c'est un jet de sperme qu'on peut déconstruire. Mais pour le reste, le père, c'est la figure d'autorité, c'est la figure qui peut dire non, c'est la figure qui n'est pas simplement dans l'espèce d'amour sous le signe du magma, c'est l'amour certes, mais qui peut distancier. La disparition du père pousse à la violence aussi. On l'a vu ces dernières années, donc je l'ai dit aux États-Unis, on l'a vu. En France, avec le cas Naël, si je peux me permettre, c'était triste, c'est une histoire bouleversante, la figure du père était absente cette fois-là. Donc l'absence du père a des effets à terme sur le rapport à la violence dans la société. Et je note, soit dit en passant, que plus il y a une déstructuration des codes identitaires, des repères, de la capacité de se définir, plus il manque de repères, plus on est dans le flou, plus on peut devenir violent. Et je note que dans les mouvements de jeunes les plus radicaux aujourd'hui et souvent les plus violents, la mouvance, on pourrait dire, trans-radicale est souvent la plus violente parce qu'elle compense une incertitude existentielle tragique, dans un droit qu'elle se donne à faire violence à tous ceux qui la contestent. Donc, vous voyez, c'est l'effet d'un effondrement anthropologique et philosophique sur plusieurs décennies qui donne aujourd'hui, indépendamment de la question de l'immigration, qu'on va toucher ensuite, qui donne aujourd'hui une société plus violente en elle-même.
La violence de la jeunesse est-elle nécessairement, comme on le voit aujourd'hui, une violence ensauvagée?
Alors, ça, c'est une illusion, je crois. C'est-à-dire, la violence ensauvagée est une réalité, elle est tragique, mais la jeunesse en elle-même porte la possibilité de la violence. Et je vais me tourner vers le dernier siècle pour dire à quel point elle connaît la tentation de la... Elle se laisse facilement embrigader, elle se laisse facilement fanatiser. Pensez, je vais donner quelques exemples, et je précise que ces exemples-là ne sont pas tous équivalents l'un à l'autre, mais c'est pour donner quelques exemples de ce que peut faire la jeunesse. Encore une fois, on vénère la jeunesse, elle est merveilleuse, elle porte toutes les promesses. Les régimes totalitaires ont toujours misé sur une survalorisation de la jeunesse pour opérer leur travail de destruction du monde et de reconquête du monde par leur idéologie. On peut penser aux jeunesses hitlériennes, si je peux me permettre. C'est un exemple probablement un des pires, sinon le pire, pour montrer comment la jeunesse peut être embrigadée dans un travail de destruction absolument terrifiant. Mais traversée de l'autre côté du spectre idéologique, la jeunesse dans la Chine de Mao était probablement la jeunesse la plus fanatique de l'histoire du monde. Elle détruisait, elle voulait détruire le vieux monde, elle voulait détruire le monde d'hier. Elle était capable d'une violence organisée, disciplinée, embrigadée, mais une violence totale aussi. Sur un registre plus calme, on pourrait dire qu'il y a une violence qui est héritée de la période 68, cette idée qu'il faut aller jusqu'au bout de ses idées, la tentation du spontanisme révolutionnaire qu'on connaît à cette période-là. Et même aujourd'hui, sur les campus américains, le retour de la violence chez les fameux jeunes woke dont on parle souvent, qui se donnent le droit à la violence physique au nom d'idéologie. Mais il y a une autre catégorie de la violence qu'on peut avoir à l'esprit chez les jeunes, et qu'on a, c'est très 1990-2000, mais c'est encore vrai aujourd'hui, c'est le phénomène des enfants soldats. Il faut savoir, on migre en Afrique un instant, et qu'est-ce qu'on voit chez les enfants soldats? C'est une jeunesse qui est embrigadée, souvent droguée, souvent endoctrinée, souvent poussée à l'extrême. Vous savez, l'extrême violence, c'est l'extrême puissance. Vous êtes tout jeune, vous n'avez pas construit vos affects, vous n'avez pas construit vos inhibitions, et on vous donne le pouvoir immense d'avoir le contrôle sur la vie des uns et des autres, et on vous transforme en petite créature diabolique à travers cela, capable de tout détruire. Donc les enfants soldats dans les guerres africaines des années 90-2000, c'est un autre exemple de cette hyper-violence de la jeunesse qui ne prend pas toujours le signe d'une violence ensauvagée comme on le voit aujourd'hui.
Et maintenant, parlons directement de la France. Quelle est la spécificité de la violence des mineurs aujourd'hui en France?
Alors, il y a des éléments qui croisent l'analyse précédente. J'ai parlé de la famille. Je pense que l'effondrement de la famille dans certains quartiers a un lien direct avec les violences telles qu'on les connaît aujourd'hui.
On en parlera un peu aussi avec Absolument. Charlotte dans un instant.
Il y a le narcotrafic. Alors ça, je pense que je vais faire le lien entre ce que j'ai dit sur les enfants soldats et le narcotrafic. Le narcotrafic mise de plus en plus sur des jeunes hommes, des jeunes personnes, mais de plus en plus jeunes pour faire des crimes de plus en plus graves. Je m'excuse, à l'échelle de l'histoire, la comparaison entre ça et les enfants soldats, disons, du narcotrafic, ne sont pas si étrangers symboliquement et culturellement aux enfants soldats des guerres africaines. Voilà des jeunes à qui on dit « la société prend pas le chemin de l'ascension sociale traditionnelle, de toute façon, t'auras rien. Tu vas rien avoir du tout, ça vaut pas la peine, tu vas avoir des grenailles. Mais si tu te lances avec nous, bon, tu vas pouvoir avoir accès à la toute-puissance, tu vas pouvoir jouir de la toute-puissance de la société de consommation, tu auras droit à des armes à feu, tu vas pouvoir tuer des gens, c'est un peu fou quand même. Et par ailleurs, qu'est-ce que ça vient avec cette idée que tu vas pouvoir consumer ton existence dans la toute-puissance, mais ça dévalorise par ailleurs la vie en tant que telle. Tu brûleras tout, mais tu peux mourir demain sans souci. Et si tu peux mourir demain sans souci, tu peux prendre la vie d'un autre demain sans souci. Donc, ayant cela à l'esprit, une jeunesse biberonnée à l'ultraviolence, mais l'ultraviolence appliquée, là, pas seulement dans les films, pas seulement dans les jeux vidéo, bien que par ailleurs, ce ne soit pas nécessairement la meilleure école qu'on puisse imaginer. Ajoutez à ça, et ça on le voit, donc une violence au-delà des enfants soldats du narcotrafic, la violence libérée à l'école, dont je parlais plus tôt, donc une violence d'une société désinhibée. Une violence quelquefois envers le professeur. Ensuite, les violences intracommunautaires. On a parlé de Samara. La violence pour sanctionner celle ou celui qui ne respecte pas les codes de la tribu. La violence intercommunautaire. Rappelons-nous simplement de Dijon, il y a quelques années. Il n'y a pas seulement que des communautés se font la guerre entre elles, ne respectent plus l'autorité de l'État et quand elles doivent faire la paix, elles vont à la mosquée. C'est pas un détail non plus. La violence liée entre, et ça j'y reviendrai dans un instant, le choc entre différentes conceptions de la femme dans les cultures. Ça peut, on le constate aujourd'hui, ça provoque des tensions immenses entre des anthropologies différentes. Et la violence animée par un inconscient décolonial revanchard, c'est-à-dire, et sur le mode souvent du racisme anti-blanc, c'est le phénomène crépole, hein, c'est le moment crépole, où cette idée que lorsqu'on frappe, on frappe aussi sur le mode de la vengeance décoloniale. Et là, on s'entend, je ne dis pas que chaque petit voyou est en lui-même, sans le savoir, un militant décolonial. Ce serait absurde de dire ça. Mais je dis que les individus sont non seulement, ils se meuvent, mais ils sont mus. Et ils sont mus par quoi? Par des inconscients, par des imaginaires. Et ce qu'on voit aujourd'hui, souvent, il y a une forme d'instinct de conquête naturelle, la conquête du territoire, l'attaque contre les symboles de la République, l'attaque contre les symboles de la France. Donc, une volonté de conquête, plus qu'une volonté, en fait, un instinct. C'est plus profond l'instinct que la volonté. La volonté, c'est construit. Donc, une volonté de s'en prendre à l'autre. Et l'autre, dans leur esprit, c'est souvent le français blanc, entre guillemets. Mais pas seulement. Mais pas seulement. C'est tout ce qui symbolise, en fait, l'autorité légitime d'un pays qu'il conteste. Et il y a un contraste aussi. Entre d'un côté, une société, un Occident vieillissant. Un Occident presque finissant, un Occident dévirilisé bien souvent, qui n'ose pas se défendre et qui ne cesse de trouver des excuses à ceux qui l'agressent. Et de l'autre côté, une jeunesse très conquérante, une jeunesse qui est quelquefois d'ailleurs animée par qui est contaminée par la propagande islamiste, qui lui dit « vous avez le droit de vous venger, vous avez le droit de frapper », et ainsi de suite. Et je le redis, la question du corps des femmes est absolument centrale là-dedans. Il ne faut pas sous-estimer la dimension politique de la sécurité féminine aujourd'hui. Au cœur de toute guerre, la conquête du corps des femmes est là. La défense du corps des femmes, la conquête du corps des femmes, et ce qu'on voit dans toute guerre. Pourquoi le viol des femmes est aussi présent? Parce que c'est une manière d'affirmer sa souveraineté sur l'ennemi. C'est une manière d'affirmer son pouvoir sur l'autre qui n'est pas capable de défendre ses femmes. Et de ce point de vue, ce qui s'est passé à Cologne il y a quelques années, c'est reproduit dans nos sociétés, parce que si on a une lecture qui pense aussi de ces tensions intercommunautaires, souvent portées par des jeunes, avec une dimension civilisationnelle, si on le pense comme tel, on peut dire que la femme est présentée ici comme prise de guerre. Le s'emparer du corps d'une femme, c'est marquer la domination d'un groupe sur l'autre. Si j'entrais dans cette logique d'analyse, je serais obligé de parler de la dimension civilisationnelle, de la dimension politique de cette violence, mais je crois que si je m'aventurais sur ce terrain, je serais rappelé à l'ordre par différentes autorités qui nous diraient « ce sont des propos haineux, c'est absolument inqualifiable, vous n'avez pas le droit de dire ça, parce que si vous dites ça, vous transgressez le récit de la diversité heureuse, donc je ne le dirai pas.
» Merci beaucoup pour votre analyse, mon cher Mathieu. Donc, on vous empêche de parler?
Non, pas du tout. Je note simplement que pour certains, pour les gardiens de la parole publique, on nomme appel à la haine et appel à la discrimination le constat d'un choc des civilisations au quotidien. Je me contente de constater que certains voient les choses ainsi.
Merci en tout cas. Magnifique analyse. On va la regarder avant de revoir un regard croisé avec l'analyse de Charlotte dans un instant. D'abord avec vous, Guillaume Bigot. Gabriel Attal a prononcé donc à Viry-Châtillon son discours sur l'autorité, là où Shemseddine a trouvé la mort. Un discours où il entend restaurer l'autorité, dans lequel il dit que sa boussole est l'impunité zéro. Alors je disais en titre tout à l'heure que vous êtes plutôt sceptique par rapport à ce discours, où on dit quand même que c'est un constat plutôt clinique, limpide, pas de Kevin, pas de Mathéo, ça c'est moi qui le dis, hein, pas de Kevin, pas de Mathéo, où les choses claires sont dites, mais vous êtes sceptique et vous allez nous expliquer pourquoi. D'abord, est-ce que la méthode Attal fonctionne toujours?
C'est vrai que je suis sceptique, mais je demande qu'à croire, mais c'est un peu difficile en fait. La méthode Attal, il y a une recette en fait qu'il a éprouvée avec l'affaire des abayas. C'est-à-dire, c'est une combinaison de lucidité dans le diagnostic. Il dit les mots, il appelle un chat, et en même temps d'action. C'est-à-dire, j'énonce quelque chose et j'agis immédiatement et c'est efficace, ce qu'on a vu sur les abayas. Et là, on ne retrouve rien de cette combinaison gagnante qui a fait le succès de Gabriel Attal dans cette affaire et dans ce qu'il a dit aujourd'hui à Viry-Châtillon et l'annonce de son Grenelle. Un, on ne retrouve pas le parler vrai. Alors, effectivement, le Premier ministre, il n'est pas dans le déni absolu, comme on a vu le maire de Saint-Hyères, mais il ne nie pas la gravité des événements. Il parle de spirale de la violence, de déferlement de la violence, etc. Mais il y a quand même quelque chose dans ses propos qui relève de la méthode Coué. C'est-à-dire qu'il essaye de s'auto-persuader et de nous persuader. Il dit d'abord, l'école doit rester un sanctuaire. Bah, je ne suis pas sûr que les parents de Shemseddine aient exactement cette impression. Il dit, le pas de vague, c'est fini. Bah, je ne suis pas sûr que le proviseur de Maurice Ravel ait vraiment cette impression. Il n'y aura pas de guerre de religion à l'école. C'est justement si. Il y a une guerre de religion à l'école, c'est bien ce qu'on voit. La bataille de l'autorité se gagne dans les classes. Pour l'instant, c'est plutôt la défaite en race campagne. C'est la défaite de 40, là. Donc, il y a quelque chose de l'auto-persuasion. Premièrement, il n'y a pas se parler vrai. Deuxièmement, il n'y a pas le côté performatif. Il n'y a pas le côté « je parle, donc j'agis ». Donc, les décisions suivent. Pourquoi ? Parce que ce qu'il annonce, ce n'est pas des faits immédiats. Justement, il va falloir ces 8 semaines pour prendre les décisions. Ou alors ça existe déjà. Il dit les parents vont signer un contrat, mais les parents ils signent déjà un règlement intérieur. Ou alors il dit ce sont des mesures carrément fausses, parce qu'il dit il y a un doublement des heures d'enseignement civique et moral. Mais c'est pas vrai. Donc sur la question des abayas, c'était grave, c'était pas aussi tragique que la mort, le lynchage, les menaces de mort, etc. Et donc, son fameux slogan qu'il a tenu à répéter, hein, qui fait penser à des Cargas remplace, voilà, vous voyez, tu casses, tu répares, hein, tu salis, tu nettoies. Mais ça paraît complètement décalé par rapport à la gravité de ce qui se passe. Ça paraît même absolument dérisoire.
On marque une pause, on reviendra, on réécoutera justement un petit sonore où il dit pas de guerre de religion à l'école. Et on va continuer sur votre constat très pessimiste. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info, on est avec Guillaume Bigot qui décortique un peu le discours de Gabriel Attal. Et vous disiez, pas de guerre de religion à l'école. Vous soulignez ce qu'a dit Gabriel Attal, on l'écoute et on continue avec vous.
Il n'y aura pas de guerre des religions à l'école. Car l'école, la seule règle qui vaut, c'est la laïcité. C'est un combat sur lequel je suis en première ligne depuis longtemps, Un combat pour lequel j'ai déjà pris des engagements forts, suivis des faits, comme l'interdiction de l'abaya et du camis à l'école. Un combat autour d'un mot d'ordre, là aussi, le pas de vague, c'est fini.
Donc pas de vague, c'est fini. Bon, vous disiez que vous étiez sceptique. Gabriel Attal annonce...
Oui, ça c'est du wishful thinking, hein, comme disent les anglo-saxons.
Pardon, on est en France.
Oh là, pardon. S'il vous plaît. Vous
non, mais c'est pour énerver.
Non, mais ça veut dire quoi? C'est pour énerver Mathieu, mais ça veut dire quoi?
En créole. En fait, c'est le...
En créole.
Moi, pas à t'y parler. Non, non. Alors, comment on pourrait traduire wishful
thinking? Bon, ok, laissez tomber.
La pensée logique, quoi.
Non, c'est magique.
C'est volontariste.
Non, mais auto-persuasion, méthode couée.
Je ne vous comprends pas. Parce que lorsqu'on ne dit pas les... Non, mais je vous taquine un peu, mais lorsqu'on ne dit pas les choses, lorsque, par exemple, les ministres, les gouvernements ne disent pas les choses, vous n'êtes pas content. Lorsqu'ils disent les choses, vous n'êtes pas content. Expliquez-nous.
Je comprends, Christine.
Vous voyez ce que je veux dire?
Je comprends.
Expliquez-nous, par exemple, Gabriel Attal, là, il a annoncé des réformes d'ampleur avec le lancement du Grenelle des violences chez les jeunes. Est-ce que c'est un pas de plus?
Bon, on a parlé un peu de la méthode Attal. Là, maintenant, c'est la méthode dite des Grenelles. C'est-à-dire, c'est la méthode des Beauvau, c'est la méthode des Ségur, c'est la méthode de ces espèces de colloques bavards gouvernementaux. Je sais pas. En fait, le problème il y a plusieurs problèmes avec ces méthodes-là, cette méthode-là. Le premier problème, et moi, je pense que c'est moins convaincant encore que Gabriel Attal lui-même. Premier problème, c'est qu'on a l'impression qu'on prend un problème, on découvre un sujet, on prend le taureau par les cornes et on va le régler une bonne fois pour toutes et on va asseoir tout le monde autour de la table. Mais ça fait juste 7 ans qu'Emmanuel Macron il a été élu. Est-ce qu'il fallait vraiment attendre Véry Châtillon pour se préoccuper de ce sujet extrêmement grave qui est documenté depuis les années 90, en long, en large, en travers? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un aspect de com, de gadget qui est très gênant. C'est-à-dire la République contre-attaque. Bon, c'est pas la guerre des boutons, on a bien compris, il y a des morts. Mais c'est pas non plus la guerre des étoiles, monsieur Attal. Donc là, le problème de ce truc-là, c'est que il nous explique, monsieur Attal dit tout cela ne peut pas se régler en un jour. Ah ben, complètement d'accord avec vous, monsieur le Premier ministre. Mais alors, ça peut pas se régler en un jour, mais ça va se régler en 8 semaines avec un point d'étape dans 4 semaines. Ben voyons, comme dirait l'autre. Donc, ces réunions font furieusement penser à... À quoi? À des séminaires d'entreprise. Le genre de concept vendu fort cher par McKinsey. C'est-à-dire qu'on va réunir, comme dans les entreprises, tous les acteurs du changement, alors même qu'on sait déjà ce qu'on va faire à l'arrivée, hein, parce que les décisions, elles sont déjà annoncées. Donc à quoi ça sert de les réunir? On ne sait pas très bien. Tous les acteurs de changement sont là. Bon, c'est un excellent moyen, je dis, de diluer la responsabilité. C'est un excellent moyen de noyer le poisson. C'est un excellent moyen aussi, et peut-être surtout, de perdre du temps. Parce que pourquoi on va réunir tous ces gens pendant 8 semaines? Je réponds. Enfin, c'est plutôt Monsieur Attal qui répond. Tout le monde sera mis autour de la table pour conduire un travail scientifique en 8 semaines, hein, bonjour, politique, technique. Alors, ça fait très sérieux, politique, technique, scientifique. D'ailleurs, on voit que le politique est noyé, hein, encadré entre le scientifique et le technique, évidemment. Ça fait sérieux, mais en fait, le problème, c'est que, je répète, tout est connu, décortiqué, mesuré, dénoncé, annoncé depuis des décennies. Hein, le livre « Les territoires perdus de la République », c'est 2003. Les premiers livres de Maurice Berger, ils ont au moins 20 ans. J'ai commis des bouquins, on est des dizaines à avoir commis des bouquins là-dessus, en long et en large, en travers, on connaît ce truc. Donc là, on a un tsunami qui s'annonce de la violence dans les collèges, dans les lycées. Et qu'est-ce qu'on fait? On sort des tambours et des trompettes, attendez ce que vous allez voir, on va réunir les meilleurs spécialistes pour vérifier que oui ou non, l'eau, ça mouille. D'accord ? Et peut-être qu'après, on fera des réunions pour savoir si on a un projet de parapluie en commun. Non, mais ça va pas bien la tête. Hein. C'est pas sérieux, tout ça. D'accord ? C'est vraiment pas sérieux. Donc, tout ça, c'est une véritable perte de temps. Et le pire et le plus incompréhensible dans cette technique du Grenelle, pour terminer avec cette technique du Grenelle, c'est qu'elle a déjà prouvé son inutilité. Sur l'hôpital, c'est exactement ce qui a été fait. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Les lits continuent à fermer. C'est exactement ce qu'on a fait avec les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que ça a changé? Pas grand-chose. Les violences faites aux femmes continuent d'exploser. Donc le problème de ça, c'est qu'on a vraiment l'impression de se retrouver dans les meilleures pages d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, avec la SDN qui essaye d'arrêter voyez, les dictateurs.
En quoi consiste ce que vous appelez un catalogue de mesurettes technocratiques?
Parce qu'en fait, d'abord, tous les sujets sont cochés. On a vraiment l'impression qu'il y a un tableur Excel et qu'il coche. Voilà, avec cette grande idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir et on va passer par l'éducation. Enfin, tout ça, ce sont des bonnes intentions, évidemment. C'est un catalogue à la Prévert. On a tout. Donc, les parents, on parle des parents, on parle des profs, on parle de la drogue, on parle des écrans, on parle des réseaux sociaux. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va faire plus d'heures à l'école, par exemple. Pourquoi? Pour éviter que certains jeunes, là, je cite encore Gabriel Attal, ne tombent dans la délinquance. Ce verbe de tomber est très intéressant parce qu'on a soi-disant rompu avec la culture de l'excuse, mais les jeunes, ils tombent dans la délinquance. C'est-à-dire qu'ils marchent, hop, et puis ils tombent. Tiens, ils n'ont pas fait exprès, ils sont tombés dedans. Ils n'ont pas plongé dans la délinquance, ils sont tombés. C'est involontaire. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ça? Ah bah, il ne faut pas qu'ils traînent dans la rue. Donc de 8h à 18h, on va les maintenir à l'école. De 8h à 18h. Bon, déjà qu'en cours, ils sont violents. Je me demande ce que ça va donner dans ces espèces de garderies jusqu'à 18h. Enfin, passons. Et en fait, les idées sont quand même mais très très naïves. Il faut que les élèves se lèvent quand les profs arrivent. Mais déjà que les élèves n'arrivent pas à rester assis en classe, maintenant ils vont se lever quand les profs arrivent. Enfin, et on va faire des conseils de discipline en primaire. C'est vraiment, mais vraiment d'une extraordinaire naïveté. On se dit, ah là, quand même, ils vont peut-être passer des mineurs en comparution immédiate. Ah non, comparution immédiate, a dit M. Attal, pour voir ce que ça donne en tant que spectateur. Donc là, ils tremblent. Ouh là là, peut-être que je vais assister en tant que spectateur à une comparution immédiate. C'est pas sérieux. Les seules mesures un peu fermes, les seules mesures un peu utiles sont que des pistes qui vont être étudiées en commission. Par exemple, est-ce qu'on fait baisser le seuil pour l'excuse de minorité? Ah ben on verra en commission. Est-ce que la mention fauteur de trouble sera dans le dossier jusque dans Parcoursup? Ah ben on verra en commission. Est-ce qu'on va restreindre l'accès aux écrans? On verra en commission. Est-ce qu'il y a de l'internat pour les plus turbulents? Ah ben non, ça c'est les parents qui verront parce qu'on reste quand même dans l'individuel, dans le bon plaisir individuel, dans le gentillet. Hein. Pas de fermeté sans accompagnement, dans les bonnes intentions. Notre objectif est l'émancipation de la jeunesse, hein, la jeunesse au sens large. Et rien qui puisse mettre des fauves hors d'état de nuire ou de la graine de SS comme l'évoquait Mathieu. Attal reste dans le monde des bisounours. Il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de coercitif, il n'y a rien de décisif. En fait, le dispositif est destiné à montrer qu'on agit sans s'attaquer à la racine et tout en faisant croire qu'on agit à la racine.
Alors pourtant, ce Grenelle est destiné à agir, à restaurer l'autorité. Pour vous, vraiment, ce n'est qu'un écran de fumée?
Oui, et je prolonge la réflexion de Mathieu. Je pense qu'on est vraiment dans... J'appellerais la Matrix comme le film, la matrice en fait. On est dans ce que le psychanalyste et psychiatre Michel Schneider appelait l'état Big Mother. C'est-à-dire qu'on est dans un univers de parlotte, dans une approche psychologisante. C'est la dimension collective est complètement niée. Hein, l'individu, le bon plaisir individuel est au-dessus de tout et il faut surtout pas frustrer l'individu. Tous discutent, tous débattent. Tous négocient, tous expliquent, tous réparent. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de butée. Voilà, il n'y a pas non plus de force, il n'y a pas de dissuasion, il n'y a pas de punition, ou presque pas. En fait, cette société, elle est trop maternante, elle est trop individualiste, elle est trop compassionnelle. Le problème, c'est que tout ce qui est du ressort du masculin, du père et de la loi est absolument rejeté. On voit bien que cette obsession là du patriarcat. Et dans cette société, elle continue à prôner quoi? Le dialogue, la concertation, la tolérance, l'empathie. Mais dites donc, c'est pas peut-être l'excès d'empathie, l'excès de tolérance, l'excès de dialogue avec des gens violents qui nous a amenés là où on en est? En fait, cette société, elle refuse de dire stop, elle refuse d'avoir des limites. Stop. Impossible de dire stop à l'immigration et notamment au groupement familial. Impossible de dire stop aux écrans. Impossible de dire stop aux réseaux sociaux. Impossible d'enfermer des plus jeunes comme ça fonctionne très bien en Scandinavie. Impossible de dire stop et d'obliger des enfants à aller en internat. Impossible d'exclure définitivement parce qu'évidemment rien ne doit être définitif. Et en fait, on comprend qu'il y a un refus de la loi, un refus de la sanction, un refus de la contrainte sur les corps. Et là où ça devient fascinant, c'est que si on réfléchit bien, on est dans un univers où la violence est excitée par quoi ? Notamment par les réseaux sociaux, notamment par les GAFAM, involontairement bien sûr, notamment par les dealers, notamment par les islamistes. Autrement dit, toutes sortes de gens qui savent parfaitement stopper, qui savent parfaitement frustrer, qui savent parfaitement couper, et ça marche d'ailleurs. Eux se contrefichent intégralement du bon vouloir des ados, ça ne les intéresse pas. Ils coupent, ils frustrent, effectivement, et ils arrêtent, ils stoppent et ils contraignent. Et ça marche bien parce qu'il y a des règles au nom du collectif, au-dessus de l'individu, qui frustre l'individu, et l'individu s'y adapte très bien. Mais notre société est incapable de faire ça.
Merci beaucoup pour votre analyse, Guillaume Bigot. J'aimerais bien qu'on parle, on fait un tour de table rapide, et après je vous donne la parole sur votre chronique, sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, et sur, on a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron... qui a déclaré, je suis à propos de l'annulation de la conférence de LFI. Je suis pour qu'on respecte les lois de la République. Après, je suis pour ma part toujours favorable à ce que les gens puissent s'exprimer librement, quand bien même je combats leurs idées. Éric Zemmour, de son côté, on va voir son tweet, il dit que Jean-Luc Mélenchon a le droit de s'exprimer. On ne m'a jamais vu, on ne me verra jamais me réjouir qu'un adversaire soit censuré, même si on s'en doute, il ne me rendra jamais l'appareil. Voilà. Donc, Jean-Luc Mélenchon, défendu par Éric Zemmour, secouru, on va dire, au nom de la liberté d'expression par le chef de l'État, et cette conférence donc de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine, prévue ce soir dans le Nord, qui a été interdite par la préfecture du Nord. Qu'est-ce que ça vous évoque, Charlotte Dornelas, cette prise de parole du chef de l'État sur la liberté d'expression ?
En fait, sur le fond, il a raison. Maintenant, il faut prendre les moyens. Hein, parce qu'il dit... pour le respect des lois, le problème c'est que la préfecture interdit au nom du respect du risque d'atteinte à la loi précisément, hein, c'est toujours, on en parle souvent, le risque de trouble à l'ordre public. Et après il dit, en ce qui me concerne, je suis pour que les gens puissent s'exprimer. Ben, ça tombe bien parce qu'en ce qui le concerne, il est président de la République. Donc il faudrait peut-être aller plus loin et en effet se préoccuper de stopper cette avancée quand même un peu inexorable de la censure et du réflexe de censure surtout. Et extrêmement souvent, vous voyez, même dans les débats, le réflexe est de faire taire la personne qui est en face de soi. C'est quand même un vrai problème.
Alors c'est une annulation pour un risque de trouble à l'ordre public, c'est assez classique, entre guillemets. Mmh. C'est devenu classique.
Oui, mais Charlotte a raison, c'est terrifiant, c'est cette tendance de la censure. L'autre n'a jamais le droit de parler. C'est la tendance aussi au nom de principes qui semblent flamboyants et ô combien louables. Le MeToo dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je dénonce. On est dans un monde où on s'épie, dans un monde où il n'est plus possible de respecter l'autre. À partir de là, si on ne s'interroge pas
ça
sur cette société...
Le MeToo a une petite partie, comme une partie quand même qui est...
Non mais le problème...
À la libération,
non mais, vous avez toujours... Vous trouvez toujours la... C'est pour ça que je le dis. Vous avez toujours la petite graine qui justifie. Ouais. Mais après, au nom de cela, vous arrivez à la dictature la plus totale. Donc, il ne suffit pas de vouloir qu'il n'y ait plus ceci, cela, et que ce soit la dénonciation. La dénonciation, pour la dénonciation, c'est l'horreur, c'est la violence, et c'est ça qui fait couler une société.
Mathieu, on a l'impression que tout le monde parle de la liberté d'expression.
Oui, ben, alors, moi, c'est très bien, mais ensuite, il faut en tirer les conséquences. Par exemple, le président de la République...
Je veux dire par là que quand c'est Éric Zemmour, on ne parle
pas... Ah, mais bien sûr,
pas.
J'y arrive.
Mais maintenant, pardon.
Il fallait que Mélenchon y arrive pour qu'on défende aussi Zemmour. Ça, c'est assez intéressant. Mais là, moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Et si on est sérieux dans la défense des libertés d'expression, il faut faire tomber ces lois, tomber le droit donné à des associations de poursuivre, de se liguer ensemble pour amener devant les tribunaux des gens pour délit d'opinion. Il faut casser le dispositif technocratique financé par l'État qui fait en sorte que des milices de censeurs peuvent traîner n'importe qui devant les tribunaux pour propos déviants. Là, on aura combattu pour la liberté d'expression.
Non mais Mathieu a complètement raison, c'est toujours le problème avec le président de la République, c'est le en même temps. C'est-à-dire que c'est aussi l'injonction contradictoire. Le même qui disait « ne les sifflez pas » dit « ce sont des lépreux populistes ». Voilà, donc c'est pas très respectueux. Bon, de la même façon, là, il célèbre la liberté d'expression, mais simultanément, il encourage des lois sur la haine, qui fait que n'importe quoi peut être considéré comme la haine, et ensuite, si vous vous exprimez, vous êtes traîné devant les tribunaux, tout en disant, oui, vive la liberté d'expression, injonction contradictoire, en même temps. Et pour terminer, je pense que moi, je ne vais pas me contredire, j'ai défendu le fait que l'intérêt général est au-dessus de l'individu. En effet, s'il y a un risque de trouble à l'ordre public, on peut limiter la liberté d'expression, qui n'est pas un absolu, mais c'est quand même à l'État d'assurer cette sécurité.
J'espère qu'on lui posera la question que Emmanuel Macron dénoncera aussi la censure du livre Transmania dont on a parlé hier. Vous savez, ce livre, il y avait une publicité dans Paris, et là, la mairie de Paris, plusieurs figures de la mairie de Paris ont dit « c'est une publicité scandaleuse, transphobe », parce qu'ils n'aiment pas le propos, donc ils voient des propos haineux. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait se porter à la défense de la publicité de ce livre, tout en disant qu'il ne l'approuve pas? Ça arrête la gueule.
En tout cas, Emmanuel Macron m'avait envoyé un SMS au début de cette émission Face à l'info. Je garde ce SMS, je le relis régulièrement parce que... Non mais c'est vrai, c'était l'un des rares qui m'avait soutenu, je tiens quand même à le dire, lorsqu'on m'attaquait pour l'émission Zemmour, il m'avait soutenu au nom de la liberté d'expression. Peut-être que beaucoup d'encre a coulé depuis, mais en tout cas, ça vaut la peine quand même de le souligner. La liberté d'expression pour tous. Marc Menant.
Même pour moi?
Ah non, pardon.
Ah bon?
Demi-seconde.
Toutes les règles et les exceptions.
Marc Menant, quelques fleurs, une marche blanche prévue demain, grande sainte et déchirée entre la réalité du quotidien et le discours politique sur place. Tous les regards se tournent vers Grande Sainte, cette commune de 21 000 âmes qui a vu Philippe, 23 ans, succomber à des coups de hache. On a envie de savoir et de comprendre. On écoutait hier sur cette antenne le maire qui disait un peu pas de vague en quelque sorte. Et en réalité, on voit que... on a envie d'en savoir plus sur cette commune. Je disais en titre 62% de logements sociaux, je disais en titre cette commune qui a voté pour Marine Le Pen au second tour, pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. On a envie d'en savoir plus sur le contexte de cette violence sur place.
Alors, c'est une ville que l'on pourrait considérer comme expérimentale dans le cadre d'une société multiculturelle. Je n'ai pas le temps de vous faire tout l'historique de cette petite cité, mais prenons-la à la fin de la guerre, 1944. Elle est totalement anéantie entre le 15 et le 16 septembre. Rasée, il n'y a plus rien. Et elle repartira avec quelques maraîchers, quelques personnages de la région. Et c'est dans les années 50 qu'elle amorce son essor grâce à la sidérurgie. On va créer des emplois. Arcelor, Mittal, c'est florissant, il y aura de l'argent. Et là, on construit, on fait venir aussi ce dont on a besoin. Eh bien, les ouvriers, des Portugais, des Espagnols, des Marocains, des Algériens. Et ce monde se retrouve dans un mélange et l'économie pour les porter. Alors on construit un peu n'importe comment. Et cette société connaîtra forcément l'effondrement industriel et surtout ses emprisonnements verticaux. Et c'est là que la société va changer. Comment elle va changer? On aura le courage d'effondrer les tours. Aujourd'hui, elle est la capitale en France de la biodiversité. C'est-à-dire, sur une ville montée à la va-vite, on a fait exploser ce qui était le plus dérangeant. On a niché des espaces verts. C'est à peu près 127 mètres carrés par habitant d'espaces verts. Il y a un petit lac, il y a une zone boisée. On a essayé de mettre en place une structure de vie qui permette aux uns et aux autres de respirer. Et cette ville est tellement exemplaire pour ces cités industrielles qu'elle a représenté la France à un colloque international à Tokyo. On dit, regardez, voilà ce qu'il faut faire. Alors, néanmoins, ça c'est la partie, je dirais, très intéressante. Parce qu'il y a une dynamique, il y a une volonté. Mais que se passe-t-il sur le plan social ? Vous avez actuellement 21 000 habitants à peu près dans cette bourgade qui jouxte Dunkerque. 45% sont d'origine étrangère. Il y a 3 mosquées et 2 lieux de prière. En revanche, il n'y a que 2 églises et 25% de chômage. Vous avez également un camp de migrants, parce que cette ville se trouve face à l'Angleterre. C'est l'espoir, en particulier pour des Kurdes, des Irakiens, et qui avaient trouvé un premier espace dont on les a sortis il y a 5-6 ans, parce que c'était l'horreur. C'était l'immondice des conditions épouvantables, et on a transféré dans un lieu à l'extérieur de la ville. Et là, on a construit des petites baraques où ils vivent par 4, où il y a l'eau courante, etc., etc. Mais avec des rixes, parce que ces gens, leur espoir, c'est pas d'avoir simplement 3 repas par jour. Alors comment on arrive au drame ? Eh bien, il y a les rixes, je vous l'ai dit. Et puis, il y a aussi la vie de tout un chacun. Alors depuis tout à l'heure, on idéalise la famille. On dit, s'il n'y a pas de père, eh bien, c'est l'effondrement. Or, il se trouve, dans les premiers éléments qui nous viennent avec l'arrestation de 2 gamins qui sont les horreurs de cette barbarie, il y en a un qui a 14 ans, l'autre 15 ans. Celui de 14 ans, on apprend que son père est d'une violence inouïe, qu'il a été en prison pour avoir frappé la mère, pour avoir frappé ses enfants, et que lui est devenu un énergumène infréquentable. Tout ça pourquoi ? Bah parce qu'il a subi cette horreur. Alors ça, c'est le côté familial.
C'est l'image du père.
C'est l'image du père.
Ça rejoint un peu ce qu'on a dit.
Oui, non, mais c'est pas ça. C'est qu'on dit, s'il n'y a pas de père, on tombe dans l'horreur. Aussi. Eh bien, il ne faut pas oublier aussi que malheureusement, l'horreur est souvent provoquée par le père. S'il y a des femmes qui sont victimes de leur mari, c'est bien le père. Donc, et les enfants. Et ne pas idéaliser ce rôle, enfin, pour moi. Après, il y a le contexte. En l'occurrence, vous avez la contagion des cultures. Il y a quelque chose qui s'est instillé dans l'esprit de nombre de jeunes à travers tout notre territoire. Regardez les derniers drames. C'est à Bordeaux, au nom de l'Aïr, il n'était pas question de boire de l'alcool. Vous promenez...
L'Aïd,
pardon. Vous promenez dans la rue, vous avez une mise une jupe, va vite te rhabiller. La pudeur, c'est devenu obsessionnel. Il faut, et là, quelles que soient vos origines, vous avez été contaminé par cet esprit-là. Et on veut le faire régner. Et qu'ont-ils fait, les deux bougres ? Ils ont été sur un site de rencontre
Et sur ce site de rencontre, ils ont créé un piège pour que si on répondait à l'appel d'une jeune fille qui cherchait une rencontre amoureuse, on était en embuscade et l'individu qui se présentait, on tombait dessus sauvagement pour l'éliminer parce que c'était une ordure, il voulait rencontrer une jeune fille. Voilà où on en est dans cette obsession de la pudeur, dans cette contagion communautariste telle qu'elle se manifeste, et en particulier là et tous les jours, on peut s'en rendre compte dans les faits divers qui apparaissent dans toute la communauté nationale.
Merci beaucoup, Marc Menant, pour votre regard et la défense de la famille à votre façon.
Mais non, mais c'est pas ça. C'est que la famille idéale n'existe pas. C'est ça que je veux dire. Il y a ce que l'on souhaite, mais malheureusement, nombre de maris. Il suffit de lire Zola et ça n'a pas changé.
Non, mais ça serait bien qu'on fasse un petit débat là-dessus, ça m'intéresse. Charlotte Dornelas, dans son discours, Gabriel Attal se pose la question de comment en est-on arrivé là, les parents, les écrans, etc. Mais derrière tout ça, on a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, et là aussi... Vous avez décortiqué son discours.
Qui ne sont pas creusés, en tout cas, qui ne vont pas jusqu'au bout, parce que Gabriel Attal évoque la question des parents, et donc de la famille, et donc de la première responsabilité, c'est-à-dire de l'éducation des enfants dont on est en train de parler. Alors, il précise, il dit « certains sont débordés, c'est vrai, mais d'autres n'assument pas leurs responsabilités, c'est évidemment eux qui intéressent, en l'occurrence le Premier ministre, qui imagine la sanction sur ces parents-là ». On l'a vu assez régulièrement. Souvenez-vous, à Cannes, ces jeunes garçons qui avaient bousculé une grand-mère, c'est quand même la famille de l'un des garçons qui avait inventé un alibi pour le protéger. On a vu récemment à Romans-sur-Isère, c'est le père de celui qui a donné le coup de couteau à la victime, qui avait demandé d'aller corriger ce jeune homme qui s'était battu avec son fils. On a la mère de Romans-sur-Isère, M.I.R.E. cette fois-ci, la mère de Romans-sur-Isère qui nous avait parlé après Crépol, qui nous avait dit « j'ai un problème avec des familles entières de délinquants qui transmettent ça à leurs enfants ». Et par ailleurs, on a des enfants de plus en plus jeunes, ça veut dire que leurs parents sont eux aussi jeunes. On s'imagine toujours que les parents sont plus âgés. Enfin, quand vous avez un gamin de 13 ans, potentiellement, les parents en ont 35. Et donc, on voit bien qu'on a aussi des délinquants extrêmement dangereux, des criminels même aujourd'hui, notamment dans le trafic de drogue, qui ont ces âges-là, évidemment, dans les sphères plus hautes. Donc ça, on sait évidemment, et on le voit à l'école, avec tous ces professeurs qui nous expliquent que de plus en plus, les parents, agressivement, viennent prendre le parti de leurs enfants contre les professeurs à l'école. Donc on voit bien qu'il y a certains parents qui, en effet, défendront toujours leurs enfants, fussent-ils délinquants, voire criminels. Mais la question qui n'est pas posée, c'est qu'est-ce qu'on a fait de la famille ? Alors rien, je le précise quand même, rien n'est pertinent individuellement. C'est pas tel cas. Il y a des enfants dans des familles complètement fracassées qui sont infiniment mieux élevés que dans des familles qui sont extrêmement stables. Très bien. Cela étant dit, à l'échelle d'une société, si on se pose aujourd'hui la question de l'augmentation de la violence, on peut constater qu'il y a 50 ans, il y avait des modèles familiaux qui étaient quand même plus stables. Et évidemment, ça n'empêchait pas des enfants très malheureux dans certaines familles. Mais à l'échelle de la société, c'était quand même plus stable et les enfants étaient mieux construits. Or, tout le mouvement progressiste du demi-siècle qui vient de se passer est celui de l'individualisme des désirs transformé en droit, celui des adultes. Et comme, et là je renvoie à la chronique de Mathieu, comme on a considéré que les enfants étaient des adultes comme des autres sur le terrain des désirs, eh bien c'est l'individualisme du désir de tous, notamment au sein de la famille. Et qu'est-ce qu'on a comme conséquence ? On a aujourd'hui, on s'est dit, on va acter que des adultes, par exemple, peuvent se séparer quand ils ne peuvent plus vivre ensemble. Au lieu d'acter ça comme un échec pour la famille, on a acté ça comme une liberté émancipatrice pour les adultes, sans jamais se poser la question du besoin de l'enfant en face de cette question. Ce qui ne génère pas du tout les mêmes questions au moment de la séparation. Évidemment, ensuite, on a dénigré clairement le rôle de la mère au foyer, par exemple, en l'opposant systématiquement à la liberté de la mère d'aller travailler, comme s'il n'y avait pas une liberté à s'occuper à temps plein de ses enfants, pour certaines femmes. On a voulu arracher les enfants, en termes de société, le plus tôt possible à leur famille, et donc à cette stabilité première, quand elle existe, évidemment, Marc a raison de le rappeler. tout a été fait, tout a été pensé au nom de la liberté des adultes, sans jamais comprendre que dans les besoins des enfants, il y avait la stabilité, la sécurité, l'altérité, la protection et la construction. Tout ça pourrait se résumer. On a beaucoup parlé de ce phénomène de déconstruction, cette volonté de déconstruction. Mais l'âge de l'enfant, c'est quoi si ce n'est celui de la construction ? Quand vous déconstruisez tout, même l'éducation des enfants, eh ben faut pas vous étonner au bout de 50 ans que les enfants aient du mal à se construire. C'est quand même assez prévisible, évidemment. Et par ailleurs, tout le débat qu'on a eu sur le terrain sexuel et sur le consentement des enfants, on a compris à ce moment-là qu'il aurait fallu l'avoir de manière plus large. Un enfant ne consent pas, il subit. Ça a l'air très péjoratif, le mot « subir ». Mais un enfant, il reçoit, on pourrait le dire comme ça. Il reçoit et il est fait pour obéir, précisément pour grandir. Et ensuite, son intelligence, il y a des stades chez l'enfant. Son intelligence, par les premiers stades de l'éducation, où vous obéissez. Ensuite, vous pouvez vous libérer de vos pulsions par l'obéissance et donc accéder à l'intelligence. Et là, normalement, l'école, par le biais de l'apprentissage, prend le relais et vous aide à construire une intelligence libre, c'est-à-dire d'adulte. Si vous commencez à prendre en considération les enfants à 3 ans comme des adultes, c'est compliqué. Ensuite, il y a évidemment la question sur la famille toujours, des modèles familiaux importés de l'étranger, notamment dans le fonctionnement clanique, qui est extrêmement bien décrit par Maurice Berger notamment, qui a eu beaucoup à faire à ces familles-là, dans lequel l'inégalité entre la mère et le père est systématique, avec notamment souvent des pères violents avec la mère et avec les enfants. Ça existe évidemment ailleurs que dans ces familles-là, mais le fonctionnement clanique existe beaucoup. Et là où je répondrai indirectement à Marc, c'est que ça prouve bien que en fait l'absence de père, c'est, on devrait dire, l'absence de bon père, c'est-à-dire l'absence d'une bonne figure paternelle, qui est donc absente aussi dans un père déviant ou hyper violent. C'est donc bien, en creux, que le rôle du père est extrêmement important. Et quand il est mal compris ou mal assuré, c'est très compliqué. Et là, encore une fois, il y a une absence de père. Alors évidemment, vous allez me dire, personne n'a dit, surtout les pères, barrez-vous. Mais quand on a un débat, par exemple, sur la grossesse, on a eu beaucoup à l'occasion de la question de l'avortement, mais prenons sur le côté positif, c'est-à-dire la grossesse. Quand vous expliquez que l'homme n'a rien à dire sur ce terrain-là, un enfant, me semble-t-il, ça se fait à deux. Alors certes, c'est la femme qui est enceinte, mais quand vous expliquez qu'avant que l'enfant naisse, l'homme n'a rien à faire, n'a rien à dire, ne doit pas être présent, il ne faut pas vous étonner derrière qu'il n'assume pas ses responsabilités. C'est quand même un mouvement qui est assez original. On pourrait très bien faire l'inverse en disant « Eh les gars, vous êtes gentils, mais bon, ce qui s'est passé hier soir, c'était sympa. Maintenant, il va falloir assumer avec madame. » Et ça changerait quand même aussi tout l'état d'esprit de la présence de l'homme, notamment par rapport à l'enfant qui arrive. Et quand on parle du rôle du père, pourquoi ? Parce qu'en effet, le rôle du père, c'est le rôle de la limite par rapport au cocon qu'est la mère, notamment dans les premières années. Évidemment qu'une mère peut poser des limites aussi. Mais donc là, un adolescent qui n'en a pas eu, il va la chercher ailleurs. Il va la chercher ailleurs, partout dans la société. Et il faut également poser la question de ce qu'on a voulu faire des parents. Quand vous avez Vincent Peillon, qui était quand même ministre de l'Éducation nationale, qui vous écrit tout un bouquin dans lequel il explique que le rôle de la République, c'est d'arracher les enfants à leur déterminisme familial le plus tôt possible, c'est quand même faire peu de considération pour l'éducation que les enfants portent. Et j'ajoute le problème de l'entrisme idéologique à l'école tout court. Gabriel Attal a parlé de l'entrisme islamiste. Je parle de l'entrisme idéologique tout court. Vous créez une emprise sur des cerveaux qui sont trop jeunes pour les avoir. Deux, un potentiel conflit de loyauté de l'enfant entre ses parents qui ne pensent pas nécessairement la même chose que ce qu'on lui impose à l'école. Là, encore une fois, pour la construction, c'est très compliqué. Vous voyez que derrière les parents et la famille, il y a beaucoup de choses. Beaucoup trop, d'ailleurs. J'ai été trop longue.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire et le temps nous presse. Parlez-nous peut-être un petit peu des écrans, de l'entrisme idéologique, et puis on va terminer sur une dernière question.
Juste, il a énoncé d'autres choses. Les écrans, l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux. Là, encore une fois, il a raison, mais c'est l'addiction qui est un vrai problème, pas l'outil. Il y a une tendance à la confusion, parfois, chez certains hommes politiques. Là, encore une fois, pourquoi l'écran est un babysitter très pratique, donc là c'est en effet une question d'éducation, notamment dans les familles, mais également à l'école. Quand vous avez des mouvements qui s'enchaînent d'installation d'écrans dans les écoles, s'il y a bien une chose que peut faire l'État, c'est protéger les enfants au moins pendant 8 heures dans la journée en leur mettant un livre entre les mains ou un professeur en face d'eux, et donc d'avoir la parole, l'enseignement et la lecture. On installe à grand renfort d'argent public, là encore une fois, du numérique partout dans les écoles. Le dernier annoncé, c'est à la rentrée 2024. Et ensuite, la question des écrans écrans, il y a la question de la pornographie. Ils ont bossé pendant un an et demi pour sortir un document sur l'éducation sexuelle à l'école. Le mot pornographie n'apparaît pas dans ce document. C'est étonnant quand on voit l'ampleur du problème. Et ensuite, évidemment, l'interdiction du portable, qui est un écran aussi. Nicole Belloubet nous en a parlé il y a quelques semaines. La loi votée pour les interdire au collège a été votée en 2018. Donc moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais enfin, pour que ça redevienne un sujet encore maintenant, c'est compliqué. Et ensuite, il a évoqué très rapidement l'entrisme, évidemment, islamiste et la question de la drogue qui dépasse de loin, malheureusement, le problème des jeunes et l'individualisme forcené. Je finirai avec ça, mais l'individualisme forcené, il nous dit le repli sur soi de nos jeunes. Mais là, encore une fois, l'individualisme forcené, un, ça ne concerne pas que les jeunes, et deux, c'est pas un problème, c'est un projet. C'est sans cesse. Et quand, par ailleurs, à chaque fois qu'il y a une loi qui s'impose, notamment qui concerne des droits individuels, et que l'argument qui prime chaque fois, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça vous retire à vous ? Moi, je suis désolée, cet argument, c'est le triomphe absolu de l'individualisme. Qu'est-ce que ça vous retire à vous ? Ça veut dire, la loi ne vous concerne pas comme groupe, comme pays, mais simplement, la loi doit satisfaire des désirs individuels au point de ne pas gêner le désir individuel d'à côté. Donc évidemment, toutes les questions qu'il a abordées concernent en fait de loin la société tout entière, mais c'est une question d'éducation beaucoup plus large que celle des parents seuls, qu'il faut par ailleurs sanctionner, j'ai aucun problème, quand ils le méritent.
Pas tous.
Quand ils le méritent.
Quand ils le méritent, exactement. Excellente analyse. Merci infiniment, Charlotte, pour votre regard. On aura l'occasion de revenir encore sur ces sujets passionnants. Mathieu Bock-Côté, nous faisons un devoir dans cette émission de parler de la France dans toutes ses dimensions, ce qui veut dire que nous nous intéressons aussi à l'outre-mer et à l'outre-mer dans sa vie politique qui semble paradoxale pour plusieurs. En France métropolitaine, on le sait, les médias cherchent à faire passer le Rassemblement national pour un parti d'extrême droite, comme vous dites, un parti raciste même, mais dans les Outre-mer, chez les populations considérées comme racisées par la gauche, il obtient un score impressionnant. On en parle parce que Marine Le Pen a eu un accueil assez surprenant et chaleureux à La Réunion. Comment comprendre ce paradoxe ?
Alors, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ça trouble notre grille de lecture. Je note pour la petite histoire, à la dernière présidentielle en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte notamment, en Guyane, le RN était premier au deuxième tour. Donc, quelquefois, d'ailleurs, du vote Mélenchon s'est converti en vote RN au deuxième tour.
Comme à Grande-Synthe.
Donc, on est dans une situation. Et, alors, on va le dire avec le vocabulaire de l'époque, ce sont des populations dites racisées. Donc, si on prend le logiciel, appelons ça Libé compatible, qui est dominant dans les médias, on se dit comment des populations racisées, autour des minorités ethniques ou des gens, des non-blancs, je ne sais plus comment parler aujourd'hui, c'est bizarre, peuvent voter pour un parti que l'on accuse de racisme. Que se passe-t-il dans ce vote? Est-ce que c'est des populations inconscientes de leurs propres intérêts ou alors est-ce qu'elles voient les choses à travers une autre grille de lecture? On pourrait dire que le clivage est le suivant. Les médias de gauche accusent toujours le RN de racisme, et ainsi de suite. Il y aurait mille manières de critiquer le RN, mais on veut à tout prix lui coller cette étiquette d'infréquentabilité. Le RN dit on n'est pas raciste, on est patriote. À la rigueur, on dirait on est nationaliste pour peu que le terme ne soit pas mal connoté. Donc notre référence, c'est la nation. Notre référence, c'est pas la race. Dès lors qu'on est dans les Outre-mer, on est en France. Si on brandit le drapeau français, on brandit pour les Français de toutes les couleurs. Et dès lors, dans les Outre-mer, le RN a mené une campagne sur le Stavassin pour être capable de gagner les Outre-mer. On dit, mais nous vous parlons, et on vous voit comme des Français, comme les autres, et pas comme des racisés de la périphérie. Premier élément. Deuxième élément qui est assez intéressant, les Outre-mer connaissent souvent les mêmes problèmes que la métropole, mais à la puissance 1000. Insécurité, immigration, violence. Donc, des problèmes qui sont très réels, plus des problèmes qui leur sont spécifiques, ne l'oublions pas. Or, ces problèmes, en France, qui portent généralement, politiquement, ces préoccupations, c'est généralement la droite nationale, c'est généralement le RN. Et de ce point de vue, ces populations se retournent vers le RN. Le RN dit, il porte nos préoccupations, il nous entend, pourquoi on s'interdirait de voter pour lui? D'autant qu'elles sont souvent, elles sont objectivement dans une situation de périphérie relative. Donc, le RN est capable généralement de capter le vote protestataire, le vote anti-système, le vote de « ça ne va plus, on va décider d'essayer autre chose ». Donc, rassembler tout ça en même temps, ça fait un effet de dissonance cognitive dans l'esprit d'une bonne partie des analystes qui ne s'imaginent qu'un électeur du RN ne soit pas un octogénaire blanc, édenté, malodorant et haineux.
Autrement dit, la France d'outre-mer brise ce que certains pourraient appeler les préjugés autour du RN et même plus largement RN Reconquête. Hein.
Oui, bien sûr. Non, mais on le voit en fait avec l'accueil de Marine Le Pen, vous l'avez dit, très très bien accueilli. Imaginons, par exemple, je crois que c'était à Saint-Denis de la Réunion, si je ne me trompe pas, imaginons un effet de contraste. Si elle se retrouvait, si elle décidait de faire un grand meeting en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'elle serait aussi bien accueillie? Pourtant, c'est des populations racisées dans les deux cas. Est-ce qu'elle serait accueillie favorablement ou est-ce qu'elle serait accueillie à la manière de leader étranger qu'il faut chasser parce qu'il n'a pas sa place en Seine-Saint-Denis? C'est une question qu'on peut se poser dans tout cela. Alors, la question qui s'ajoute, c'est est-ce que c'est parce qu'en Seine-Saint-Denis, le sentiment patriotique est peut-être moins fort que dans les Outre-mer? C'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Chose certaine, la question n'est pas raciale, elle est nationale, et de ce point de vue, le cours de conscience nationale vient davantage des Outre-mer que de nos amis de Libération.
Merci beaucoup Mathieu Bocoté. Rappelons qu'un couvre-feu est annoncé en Guadeloupe pour les 12, 13, 14 ans, dit Gérald Darmanin, qui sont dans la rue la nuit avec des armes. Et rappelons que le premier sujet des Guadeloupéens, c'est l'insécurité, mais personne n'ose le dire. CF, mon article du JDD là-dessus. Alors, je vous offre ça. On en a beaucoup parlé cette semaine le livre noir. En nous quittant, excellente suite de programme à tous. Tout de suite, l'heure des Pro 2 avec Pascal Pro. Et puis voilà, vous pouvez un petit livre noir pour chacun. Bonne soirée.